Nous allons lire donc le chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, les jours solennels de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. 6 jours on travaillera, et le 7e jour est un sabbat de repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est un sabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. » Ce sont ici les jours solennels de l'Éternel, de sainte convocation, que vous publierez en leur temps assigné. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, est la Pâque à l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois est la fête des pains sans levain à l'Éternel. 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Et vous présenterez à l'Éternel pendant 7 jours un sacrifice par feu. Au 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson. Et il tournoiera la gerbe devant l'Éternel pour que vous soyez agréés. Le sacrificateur la tournoiera le lendemain du sabbat. Et le jour où vous ferez tournoyer la gerbe, vous offrirez un agneau sans défaut, âgé d'un an, en holocauste à l'Éternel. Et pour son offrande de gâteau, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, un sacrifice par feu à l'Éternel, une odeur agréable. Et sa libation sera du vin, le quart d'un hin. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu. C'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 semaines, elles seront complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteau nouvelle. Vous apporterez de vos habitations 2 pains en offrande tournoyée. Ils seront de 2/10 de fleurs de farine. Vous les cuirez avec du levain, ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Et vous présenterez avec le pain 7 agneaux sans défaut, âgés d'un an, et un jeune taureau et 2 béliers. Ils seront un holocauste à l'Éternel, avec leur offrande de gâteau et leur libation, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, et 2 agneaux, âgés d'un an, en sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les tournoiera avec le pain des premiers fruits, en offrande tournoyée devant l'Éternel, avec les 2 agneaux. Ils seront saints, consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Et vous publierez une convocation en ce même jour. Ce sera pour vous une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. C'est un statut perpétuel dans toutes vos habitations, en vos générations. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner les coins de ton champ, et tu ne glaneras pas la glanure de ta moisson. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 23. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël en disant, au 7e mois, le 1er jour du mois, il y aura un repos pour vous, un mémorial de jubilation, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par eux. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, de même, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des propitiations. Ce sera pour vous une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Et ce même jour, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est un jour de propitiation, pour faire propitiation pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce même jour sera retranchée de ses peuples. Et toute âme qui fera une œuvre quelconque en ce même jour, cette âme, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. C'est un sabbat de repos pour vous, et vous affligerez vos âmes. Le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre sabbat. Verset 33. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël en disant, le 15e jour de ce 7e mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Ce sont là les jours solennels de l'Éternel que vous publierez de sainte convocation afin de présenter des sacrifices faits par feu à l'Éternel, des holocaustes, des offrandes de gâteaux, des sacrifices et des libations, chaque jour ce qui est établi pour ce jour, outre les sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura repos, et le 8e jour, il y aura repos. Et le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, et des rameaux d'arbres touffus, et de sols de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Et vous célébrerez la fête comme fête à l'Éternel pendant 7 jours chaque année. C'est un statut perpétuel en vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez 7 jours dans des tabernacles. Tous les indigènes en Israël habiteront dans des tabernacles, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Moïse dit aux fils d'Israël les jours solennels de l'Éternel.
Après la lecture de ce chapitre, on pourrait se dire, voilà, c'est un texte qui est adressé aux fils d'Israël, aux juifs donc. Je ne sais pas s'il y a des juifs dans des israélites, si on peut dire, d'origine dans la salle. S'il y en a quelques-uns, ils vont dire c'est pour moi. Et puis les autres, on peut partir parce que ça ne nous concerne pas. Mais voilà que ce texte que nous avons lu, qui semble un peu difficile a priori, va pouvoir s'éclairer pour nous parce que il se situe dans la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est une parole vivante. Et si elle nous a été, si ce livre nous a été conservé, c'est que il y a dans chaque page une instruction pour nous, et chrétiens, donc du 21e siècle. Et c'est vrai que quand nous avons choisi ce texte, nous avons voulu avoir un enseignement sur sa signification pour nous aujourd'hui. Et on va découvrir que ce texte nous parle beaucoup du Seigneur Jésus. Alors ça nous intéresse, parce qu'on aime le Seigneur Jésus, on aime bien le connaître encore plus. Et deuxièmement, nous avons choisi ce texte parce que il peut nous donner des indications sur les différentes étapes de notre vie de chrétien. Et on va essayer de découvrir ça ensemble. Alors peut-être que vous pourrez dire... mais vous allez faire des interprétations qui sont plus ou moins fantaisistes et bon, est-ce qu'on va pouvoir se fier à ce que vous allez nous dire? Alors, il y a une clé pour comprendre la pensée de Dieu, le message de Dieu, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Elle n'est pas donc l'interprétation de quelques personnes et puis voilà ce que ça veut dire. Et justement, quand on lit ce texte, on a entendu parler de la Pâque. Il parlait de la fête des pains sans levain, par exemple, il parlait du jour des propitiations, c'est-à-dire de l'expiation, du jour du grand pardon, Yom Kippour. Pour se dire, mais est-ce que le Dieu, par son esprit, a parlé de ça aussi dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il est un peu plus, peut-être qu'il nous parle un peu plus. Bien, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, pour la Pâque, l'apôtre Paul... Dans l'épître qu'il écrit, la lettre qu'il écrit aux Corinthiens, dit à un moment donné, pour une circonstance, on y reviendra sans doute, il dit aux chrétiens de Corinthe, et cette lettre est écrite pour les chrétiens de Corinthe, et puis aussi pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, donc ça nous concerne aussi, il dit à un moment donné, Christ, notre Pâque, a été sacrifié, a été mis à mort, c'est pourquoi célébrons la fête des pains sans levain. Ah tiens, donc ça veut dire que Paul va pouvoir nous dire là que Jésus-Christ, le Christ, symbolise, son œuvre symbolise la Pâque. Tiens, ça c'est pas une, une interprétation fantaisiste, c'est la Bible elle-même qui le dit. Donc on va trouver une indication intéressante. Un deuxième exemple, par exemple, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il adresse aux Hébreux pour leur parler du danger de rester ou de retourner dans le judaïsme, ceux qui avaient adhéré au christianisme, et il va le centre de son message, c'est d'expliquer que Jésus-Christ, par son œuvre, a obtenu pour tous ceux qui croient un pardon définitif, une rédemption éternelle. Et il prend comme base, justement, ce jour des propitiations, ce jour des expiations, ce jour du grand pardon. Donc tout ça pour dire que la lecture du texte qu'on a fait aujourd'hui va être comme une image, un type, une image du Seigneur Jésus, de son œuvre, et aussi nous parler des résultats pour notre vie de chrétien. Donc voilà un petit peu une indication qui va nous ramener au présent, un texte qui nous a paru peut-être un peu confus dans la lecture. L'idée, c'est que Dieu a un peuple, dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël qu'il a choisi. Et il aime vraiment passer du temps avec lui, avoir un dialogue, avoir des moments privilégiés avec lui, parce que Dieu veut bénir, veut faire du bien. Il aime entendre aussi son peuple lui parler, le louer. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru, des enfants de Dieu. Et ce même Dieu aime aussi rencontrer ses enfants, ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il aime les rencontrer, il aime les bénir, il aime avoir en quelque sorte des rendez-vous avec eux. Et alors, justement, ce texte va peut-être nous aider à mieux comprendre cette pensée-là. Pour confirmer, on a donc ce texte de Lévitique 23 qu'on a lu. Il y a aussi deux chapitres dans le livre des Nombres qui nous parlent beaucoup de ces fêtes. Hein, la fête, ça veut dire quelque chose, un moment de joie particulier. Et je voudrais juste lire l'introduction des chapitres 28 et 29 des Nombres, encore en introduction et j'ai bientôt terminé. Simplement pour montrer un peu la pensée de Dieu avec ce sujet. Donc dans le livre des Nombres et au chapitre 28, Dieu parle à Moïse, disant « Commande aux fils d'Israël et dis-leur, vous prendrez garde à me présenter au temps fixé mon offrande, mon pain, pour mes sacrifices par ceux qui me sont une odeur agréable. » Voilà donc quelque chose qui fait plaisir à Dieu, des moments de rencontre avec Dieu. Et nous verrons que ce n'est pas seulement des moments exceptionnels, mais finalement notre Dieu désire que le dialogue soit toujours ouvert, constamment ouvert entre lui et nous et entre nous et lui. Alors, simplement pour revenir à notre texte et finir l'introduction, on a lu et remarqué, donc nous remarquons, qu'il y a sept fêtes en particulier qui sont notées comme des rendez-vous particuliers au cours d'une année. Une année, c'est comme un cycle complet. Et donc pendant une année, Dieu avait prévu des rendez-vous. C'est vrai que le livre des Nombres nous parle de rendez-vous quotidiens, des rendez-vous hebdomadaires, des rendez-vous mensuels, et puis des moments tout à fait particuliers, comme ceux qui nous sont donnés dans ce chapitre 23. Alors le peuple d'Israël donc, a été amené à fêter ces moments particuliers. Et nous allons donc essayer de découvrir le sens de ces différentes fêtes et ce qu'elles impliquent, justement aussi dans notre vie de chrétien. Je voudrais juste noter une chose en terminant, c'est que dans ce chapitre, ça commence par le projet de Dieu pour l'homme, un jour de repos. Et ça se termine aussi par un moment de repos. Et finalement, Dieu, ce Dieu plein d'amour, désire que sa créature, que les siens, puissent se reposer. non pas spécialement parce qu'ils sont fatigués, mais le repos, c'est, on nous l'a redit dimanche dernier, c'est comme quelque chose qui est accompli, achevé. L'homme dans ce monde cherche toujours, il n'y arrive pas. Il s'épuise à chercher finalement ce qu'il ne trouve pas parce qu'il cherche au mauvais endroit. Eh bien ce Dieu plein d'amour nous propose justement un repos. Un repos de l'âme, une paix de l'âme. Et donc ce chapitre est encadré par le repos. Et cela aussi peut nous encourager parce que nous les chrétiens, par la grâce de Dieu, eh bien nous pouvons trouver ce que cherchent tant de personnes autour de nous. Et c'est aussi notre mission de dire, voilà, vous pouvez trouver le vrai repos de votre âme. Où ça? Eh bien, dans le Seigneur Jésus.
Je voudrais compléter un peu ce qui vient d'être dit dans cette présentation de ces fêtes. Et quand on a fait la lecture, tout à l'heure, à plusieurs reprises, est venu le mot « sainte convocation ». Alors, le concept de fête, l'idée de fête, n'est pas propre au judaïsme. Tous les peuples, toutes les grandes religions ont leur temps fort, ont leur fête. Que ce soit des actes fondateurs, que ce soit lié aux activités agro-pastorales, ici nous avons affaire à une civilisation fondée sur les céréales, le blé, l'orge, mais on peut trouver également des fêtes analogues en Amérique sur le maïs, en Asie du Sud-Est, sur la riziculture, à plusieurs moments, il y a des fêtes qui marquent ainsi une rupture dans le calendrier. Alors, on pourrait se poser la question, et au fond se dire, comme se disent aussi les historiens qui étudient les religions, qui comparent les religions, ou les anthropologues, au fond, qu'est-ce que ces fêtes qui nous sont mentionnées dans Lévitique 23 apportent de plus par rapport aux fêtes célébré partout ailleurs dans le monde. Alors, il y a plusieurs éléments d'explication. La première, c'est que, comme cela a été rappelé tout à l'heure, le peuple d'Israël n'est pas n'importe quel peuple. C'est le peuple de l'Alliance. C'est le peuple qui a reçu les oracles de Dieu. Et dans l'histoire de ce peuple, il y a le plan du salut. Dans les fêtes célébrées par ce peuple d'Israël, nous y retrouverons les grands desseins, les plans de Dieu à l'égard de la nouvelle alliance. C'est un premier point. Et un deuxième point, c'est le mot « sainte convocation ». Et là, il y a toute la différence entre le sacré et le saint. À cette époque-là, il y avait des grandes fêtes. Les enfants qui étudient en classe de 6e la civilisation grecque hellénistique savent qu'il y avait aussi des grandes fêtes, et partout ailleurs, dans ce Proche et Moyen-Orient. Ces fêtes avaient un caractère sacré, mais pas saint. Le mot sacré est utilisé très peu souvent dans notre Bible. On l'utilise très fréquemment dans le vocabulaire courant, le vocabulaire religieux. Il y a deux passages, et encore, c'est des traductions qui pourraient très bien se faire autrement. Dans d'autres traductions, on trouve le mot sacré différemment. C'est dans le premier livre de Samuel concernant les pains, que Samuel a pris pour ses hommes, et puis dans 1 Corinthiens 9. Le mot sacré ne fait pas partie du vocabulaire biblique, de nos Bibles. Le sacré, c'est ce qui relie l'homme au divin, au sens large. Les religions, les sociétés dites primitives accordent énormément d'importance au sacré. Elles ont leur fête, avec un rituel très précis, qui marque à la fois l'identité du peuple, le souvenir, bref, tout ça est codifié d'une façon extrêmement précise. Mais ce n'est pas saint. Or, le livre, ce n'est pas saint tout simplement parce que on peut parler des fêtes sacrées, la prostitution sacrée, voilà un exemple fort, mais je le dis, n'est-ce pas? Et puis ces fêtes, c'était souvent aussi l'occasion de se livrer à toutes sortes de débauches, d'orgies et de débordements divers et variés. Là, ce sont de saintes convocations. Le livre du Lévitique utilise, je crois, 150 fois le mot « saint ». Et le verset central, on va le retrouver un petit peu avant, à la fin du chapitre 19, le verset central de ce livre-là, au verset 26. « Vous me serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples pour être à moi. » Il y a à la fois l'idée de séparation et l'idée de pureté. Chapitre 19, verset... Oui, pardon, chapitre 20, verset 26, excusez-moi, chapitre 20, verset 26. Il y a donc l'idée de séparation. Le peuple d'Israël était séparé des autres peuples et donc très différent des autres peuples. Et l'idée de sainteté, de pureté, et c'est quelque chose de très différent, encore une fois, du sacré, j'insiste, et je crois que c'est très important, parce que Dieu est saint, tout simplement. C'est là l'essence même de son être. Et ce peuple de l'Alliance, ce peuple que Dieu s'est choisi, devait refléter quelque chose de cette sainteté. Alors nous sommes là dans un monde totalement différent de tout ce qui se pratiquait ailleurs, de toutes ces fêtes sacrées, entre guillemets. Nous sommes là dans le monde du divin, dans le monde de Dieu, dans le monde de la sainteté. Et c'est pour cela qu'il faut, à plusieurs reprises, cette expression est revenue de sainte convocation.
Encore quelques mots en guise d'introduction pour confirmer ce qui vient d'être présenté. Nous avons donc affaire avec un peuple spécial que Dieu s'est choisi, avec lequel il a réalisé une première alliance. Testamentum, en latin, veut dire alliance. Nous avons donc un ancien testament, une ancienne alliance, qui va être confirmée, magnifiée dans une nouvelle alliance, nouveau testament, qui va s'incruster dans le Christ Jésus. Pour ceux et celles qui n'auraient pas l'habitude des textes de l'Ancien Testament, que pouvons-nous dire à la lecture de ce chapitre 23 du livre du Lévitique, livre particulièrement ardu, difficile, pour lequel nos jeunes éprouvent, et nous les comprenons, énormément de difficultés d'y entrer. Toutes les fêtes qui nous sont ici présentées sont des fêtes qui se sont réellement déroulées historiquement dans le cadre de la vie du peuple d'Israël. Certaines déjà pendant la traversée du désert du Sinaï, d'autres pour lesquelles il a fallu attendre d'être entré dans le pays. C'est le cas notamment de la troisième fête, la fête des prémices, où il est bien écrit qu'il fallait attendre d'être entré dans le pays. Ce sont toutes des fêtes qui parlent de la proximité de Dieu, comme Philippe l'a souligné en commençant, Dieu aime son peuple, Dieu lui parle énormément, Dieu lui donne une loi, Dieu l'invite à s'approcher de lui, et ces fêtes sont justement le prétexte pour le peuple de pouvoir s'approcher de Dieu. Il y a donc un va-et-vient entre le ciel et la terre. Dieu d'abord qui s'adresse à son peuple, et ensuite le peuple qui est invité, sainte convocation. Le mot revient, l'expression revient 11 fois, rien que dans ce chapitre, 11 fois, sainte convocation, 4 fois, jour solennel. Lorsque nous abordons ce chapitre 23, comme d'ailleurs l'entièreté du livre du Lévitique, nous pouvons avoir 3 grilles de lecture. En comparaison, c'est un peu la même situation avec le livre du Cantique des Cantiques. Le livre du Cantique des Cantiques, première lecture, historique, une déclaration d'amour entre Salomon et une de ses favorites. Deuxième grille de lecture, une histoire d'amour entre Dieu et son peuple Israël. Troisième grille de lecture, histoire d'amour entre Jésus et son épouse divine, l'Église. Pour ce qui concerne le livre du Lévitique, et ce chapitre 23, première grille de lecture, des fêtes qui se sont historiquement, réellement déroulées dans le cadre de la vie du peuple d'Israël. Deuxième grille de lecture, dans ce sens-là que nous allons aborder ce texte tout au long de cette journée, qu'est-ce que ce texte peut me faire découvrir concernant la relation que nous, chrétiens, nouveau peuple que Dieu s'est choisi, par la vertu du sang de Christ, qu'est-ce que ce peuple peut m'apprendre concernant la proximité de Jésus, son exemple parfait, et la manière avec laquelle je peux désormais m'approcher de Dieu. Et une troisième grille de lecture, sur laquelle probablement nous ne nous étendrons pas, qui est une grille prophétique, et qui va nous apprendre tout le plan de Dieu à l'égard de son peuple d'Israël, d'une part, et à l'égard de l'humanité tout entière, d'autre part. Alors, qu'est-ce que ces fêtes peuvent bien nous apprendre concernant la personne merveilleuse du Seigneur Jésus? Je lirai 2 versets dans le Nouveau Testament pour nous faire comprendre. Tout d'abord, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 1. Hébreux 10, verset 1. « Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. » Donc nous retenons ceci, la loi est une ombre des biens à venir. Et en Colossiens 2, verset 16 déjà,
Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Les différentes fêtes qui sont mises ici à notre disposition sont donc des ombres, des choses à venir qui confirment la merveilleuse personne du Seigneur Jésus. Nous avons tous lu une merveilleuse méditation le 3 avril dernier dans la revue Lui Plaire qui parlait justement de ces ombres. Qu'est-ce qu'une ombre ? Une ombre, c'est quelque chose d'imparfait, tout d'abord par sa taille. Tout dépend de la position du soleil. Une ombre reflète plus ou moins grandement l'objet de départ. Une ombre peut avoir des contours flous. Tout dépend de l'intensité de l'éclairage. Une ombre est toujours noirâtre, à l'opposé de l'objet qui est toujours coloré. Une ombre est toujours muette, à l'opposé de l'objet qui peut être bien vivant. Mais pourquoi donc Dieu nous parle-t-il en ombre si les ombres sont entachées d'imperfection ? Bien, nous avons un verset qui peut nous y aider dans le livre du Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques au chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 3. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. J'ai pris plaisir à son ombre et je m'y suis assise. Lorsque l'ardeur du soleil est trop lourde à porter, on prend plaisir à trouver un petit coin d'ombre. Lorsque la clarté du soleil est trop aveuglante, on prend plaisir à se réfugier à l'ombre. Mais pour la parole de Dieu, il en est de même. L'Ancien Testament, des ombres, mais qui, dans leur contexte, dévoilent la clarté et l'intensité de la lumière de Dieu. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur Jésus. Et pour peut-être mieux comprendre toute la plénitude et toute l'intensité de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus, il est bon de commencer par des petits coins d'ombre, même si c'est noirâtre, même si c'est flou, même si les proportions sont démesurées, mais petit à petit et par recoupage, en méditant, en sondant les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage du Seigneur Jésus, on en arrive petit à petit à découvrir la merveilleuse personne de notre Sauveur et de notre Seigneur. Encore un petit mot, excusez-moi peut-être si je suis un peu long, mais simplement reprendre les différentes fêtes, et pour bien nous montrer que, en filigrane, elles arrivent toutes à mettre en évidence la personne du Seigneur Jésus. Première fête, la Pâque. Philippe l'a déjà dit, l'apôtre Paul, Nouveau Testament, écrivant aux Corinthiens, le confirme, Christ, notre Pâque. Deuxième fête, les pains sans levain. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, dira, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Troisième fête, la fête des prémices. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, on y reviendra aussi, va pouvoir affirmer, « Christ, les prémices. » Quatrième fête, la fête de la jubilation, comme il est écrit en Lévitique 23, qui est la fête de la Pentecôte. C'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et que dira le Christ Jésus en parlant du Saint-Esprit ? Qu'il l'enverra lui-même, ce Consolateur. Et que va faire ce Saint-Esprit, entre autres ? Il prendra de ce qui est à moi, dit-il, et il vous le communiquera. Cinquième fête, la fête des trompettes. Une trompette, ça réveille. Une trompette, ça rassemble. S'il en est bien un qui est venu réveiller l'humanité pécheresse, c'est le Seigneur Jésus. S'il en est bien un qui est venu rassembler en un les enfants de Dieu dispersés, c'est le Seigneur Jésus. Sixième fête, la fête des expiations ou la fête des propitiations. S'il y en a bien un qui ne devait pas confesser ses fautes, c'est le Seigneur Jésus, puisqu'il n'a rien commis qui ne se dût faire. Et pourtant, il a été fait péché à notre place, il a pris notre place à la croix. Et sur la croix, merveilleuse parole, entre autres, du Seigneur Jésus, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Et enfin, dernière fête, la fête des tabernacles, le correspondant grec, « tabernaclé », si vous voulez, c'est « habiter avec ». Jésus-Christ n'a-t-il pas été présenté au peuple comme Emmanuel, Dieu avec nous ? Et dans un temps futur, nous le retrouverons dans sa sainte déité, lorsque, en Apocalypse 21, il nous est dit que Dieu tabernaclera, Dieu habitera avec les hommes. Voilà quelques jalons pour nous introduire dans cette merveilleuse étude, où d'une part nous avons des ombres, mais il faut diriger toutes ces ombres et toutes nos méditations sur une personne centrale qui est le Christ Jésus.
Quatre livres de l'Ancien Testament nous parlent de ces fêtes, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans l'Exode et dans le Deutéronome, il n'y en a que trois mentionnés, alors que dans le Lévitique et les Nombres, ils sont les sept. Ces trois mentionnés en Exode et en Deutéronome sont particulièrement mises en évidence. L'une nous fait regarder au passé, la Pâque. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. La deuxième nous fait regarder au présent, c'est la Pentecôte. Et c'est celle qui, en quelque sorte, introduit la nouvelle alliance dans la pratique, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2 des Actes, qui introduit surtout notre relation avec Dieu. Et la septième, les tabernacles, qui nous projettent alors sur un futur où le peuple pourra jouir de la présence de Dieu, où Dieu habitera avec l'homme. Et celle centrale, toujours la quatrième, c'est la centrale dans ces groupes de sept dans la parole, on peut généraliser même, celle centrale a un caractère particulier. Or, c'est la fête de la Pentecôte, et c'est celle qui nous parle aujourd'hui, notre relation avec le Seigneur aujourd'hui, ce que le privilège du croyant aujourd'hui avec la présence de l'Esprit-Saint. On pourra donc, au cours de l'étude, s'arrêter tout spécialement sur les significations et les applications de ces sept fêtes pour le jour d'aujourd'hui. Notons encore, en ce sens schématique, les trois premières sont liées, les trois premières fêtes, elles sont liées un peu entre elles, les trois dernières aussi, et celle du milieu, c'est le pivot central, c'est donc le tournant des deux alliances, l'ancienne alliance pour Israël, la nouvelle alliance pour l'Église, et le tournant, c'est le jour de la Pentecôte. On peut noter combien la parole de Dieu est systématique. Il ne faut pas être systématique pour l'étudier, mais elle est systématique, et lorsque nous découvrons certaines choses, il y a des significations toutes spéciales, et en particulier avec ce qui est central. Et toujours, c'est Jésus-Christ qui est central, et ici, nous voyons que c'est l'Esprit-Saint dont nous parle spécialement la Pentecôte.
Donc maintenant qu'on les a presque déjà apprises par cœur, les sept fêtes, mais je ne comprends pas Philippe, tu parlais de sept fêtes, moi j'en ai compté huit. Donc sabbat 1, et ensuite on a eu les sept autres, et donc la Pâque et les pains sans levain et la gerbe des prémices qui forment un tout, comme vient de dire notre frère, ensemble à peu près dans une même semaine, on va dire, ou dizaine de jours. Le pivot central, la Pentecôte. Pentecôte, 50 jours plus tard, donc presque deux mois, c'est le pivot central. Et puis, après un trou de quatre mois, sur le septième mois de l'année, c'est les trois derniers. Donc, ça nous en fait huit si on compte le sabbat. Et c'est effectivement frappant que ce chapitre commence, comme tu l'as dit tout à l'heure, par le sabbat. Et en fait, la façon dont c'est rédigé est très touchante. Verset 1, « Les jours solennels éternels que vous publierez seront de saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. » On s'attend à l'égrénage des sept fêtes principales. Ah, et on commence par le sabbat. « Ce sont ici mes jours solennels. Six jours, on travaillera. » Et le septième jour est un sabbat de repos, une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre, c'est un sabbat à l'Éternel dans vos habitations. Alors on s'apprête à aborder ce grand chapitre de rendez-vous annuel, et Dieu commence dans mon quotidien. Il commence dans mon quotidien, il commence dans mon habitation, dans vos habitations. Alors le sabbat, c'est important, c'est Dieu qui a vraiment montré l'exemple, puisque c'était son... Il a sanctifié le sabbat déjà dans son œuvre de création, donc c'est quelque chose de très fondateur, ce principe de Dieu, de mettre à part un jour dans son quotidien, de se reposer. Alors, il y a quelques versets sur le sabbat qui sont intéressants. Il y en a un dans Exode 34:21 qui donne bien la problématique un peu pour nous pratiquement. Exode 34:21. Six jours tu travailleras, le septième jour tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Même au temps du labourage et de la moisson. C'est-à-dire que tu te prends à part ce temps avec ton Dieu, avec ta famille, même quand des priorités, mais vraiment légitimes de la vie,
le labourage, c'est investir sur le futur, la moisson, il ne faut pas quand même la laisser traîner longtemps, si des fois il pleuvait ou autre, même s'il y a quelque chose de légitime, eh bien tu te prends à part. Quelle discipline il fallait avoir. Et alors là, il y a plein d'applications pratiques pour nous, Dieu a montré l'exemple, et ce principe demeure de mettre du temps à part. Mettre du temps à part pour soi, pour être avec Dieu, pour un temps d'intimité, et puis pour un temps de famille aussi, même quand il y a justement des choses tellement légitimes qu'il faudrait vraiment faire. Alors, on peut pas se mettre, bien sûr, sous la loi. On sait que le sabbat a été, au fond, un petit peu aboli, ou est tombé dans le Nouveau Testament, le Seigneur lui-même disant « Je suis le maître du sabbat hein ». Mais certainement qu'un principe demeure. Là, on a déjà mentionné tout à l'heure dans Colossiens que personne ne vous juge concernant une fête, hein, que personne ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, de nouvelle lune, de sabbat, qui sont des ombres. Donc aujourd'hui, sûrement pas de règles. Le Seigneur même a dit aussi aux Juifs, leur dit, mais enfin, chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne un jour de sabbat? Donc, le Seigneur a donné de la souplesse par rapport à cet enseignement, à ce principe. Mais le principe d'avoir une priorité, de savoir mettre du temps à part pour son Dieu, et dans un rythme régulier, et pourquoi pas hebdomadaire, reste sûrement quelque chose de très très fort qu'il faut pas oublier. Alors il y a des familles pour lesquelles le dimanche est un jour en fait très chargé parce qu'on invite des amis, parce que il y a certaines maîtresses de maison qui ont en fait un dimanche c'est le pire jour de la semaine. Eh bien alors peut-être qu'il y a un autre jour dans la semaine où il faut essayer de prendre du temps seul avec son Dieu ou seul avec sa famille. Ça vaut vraiment le coup de suivre cet exemple et de ne pas se laisser complètement embarquer. Alors dans Néhémie 13, les Tyriens apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et les vendaient le jour du sabbat aux fils d'Israël. Le monde autour de nous, évidemment, il nous pousse à faire tout ce qu'il faut pour ne jamais, jamais avoir de temps tranquille où on va s'arrêter. Quel progrès social c'était à l'époque des Juifs par rapport au peuple autour d'eux. Imaginez un serviteur juif, il s'arrêtait une fois par semaine, complètement. Un esclave, tout le monde. C'est un capital extraordinaire que de savoir prendre du temps seul avec son Dieu. C'est un témoignage autour de nous que d'avoir cette priorité dans notre vie absolument visible. Et c'est complètement contraire à cet esprit du monde qui vend du poisson et toutes sortes de marchandises le jour du sabbat. Savoir s'arrêter avec son Dieu, c'est contraire à l'esprit du monde et ça peut être un témoignage.
Toute petite parenthèse concernant ce jour de sabbat. Différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que le sabbat arrivait en le septième jour, et c'était en quelque sorte comme une récompense vis-à-vis du travail fourni pendant les six premiers jours, tandis que pour les chrétiens, pour l'Église en général, le repos arrive le premier jour. Pourquoi ? Bien évidemment, en souvenir de la résurrection du Seigneur Jésus le premier jour de la semaine de grand matin, mais beaucoup plus que cette commémoration sentimentale, dans la pensée de Dieu, on se repose, on bénéficie du repos avant de pouvoir s'exprimer dans le travail. La vision de Dieu est tout à fait différente et elle est merveilleuse. De la même manière que la Pâque de Lévitique 23 annonce la croix de Christ, de la même manière que le repas tel que le Seigneur l'a institué pour nous chrétiens, fraction du pain, sainte cène, repas de communion, ce repas porte différents noms que les hommes lui ont accordés, ce repas-là confirme la croix de Christ. Donc il y a comme un transfert de signification entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sabbat, repos après un travail fourni, et pour nous, jour de repos nécessaire avant de fournir le travail des jours à venir.
Le premier jour de la vie de l'homme, ça a été le jour du repos de Dieu. Il a été créé le sixième jour et sa première journée, c'est le septième. Et il me semble, on retrouve là aussi un peu la pensée de Dieu, nous faire rentrer dans son repos. Et d'une autre manière aussi, la parole de Dieu commence par ce repos après la création. Et puis termine aussi par le repos dans l'Apocalypse. Le repos qui ne sera pas l'inactivité, mais ce sera le repos dans la présence de Dieu, ses esclaves le serviront et verront sa face. un repos qui vient aussi après les épreuves. Quand on rentrera dans ce repos-là, le premier acte de Dieu, c'est essuyer les larmes de nos yeux. Le repos qui nous mène dans l'illumination de la présence de Dieu, où tout est clair, où tout est pur, où il n'y a plus d'obstacle à jouir de ce repos-là.
Juste deux mots sur le dimanche, puisqu'on l'a un peu évoqué. Pour essayer de faire une comparaison avec le jour du sabbat. Donc, dans le Nouveau Testament, effectivement, on ne trouve pas d'exhortation particulière à respecter le repos le jour du dimanche. On a simplement deux repères, peut-être, qui nous permettent de dire que, dès le début de l'histoire de l'Église, ce jour a été mis à part. On a acte 20, on peut le lire rapidement. Acte 20, lorsqu'il est mentionné une réunion qui a lieu ce jour-là. C'est à Troade. Acte 20, verset 7. Bien sûr, dans la semaine juive et la semaine française, jusqu'à il y a quelques années, le dimanche était le premier jour de la semaine. Dans acte 20, verset 7. Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, donc on partageait la scène, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours. Donc dimanche, réunion de célébration de la scène et message d'édification. Et puis on a aussi une expression de Apocalypse 1, Jean qui dit qu'il a eu sa vision, Apocalypse 1 verset 10, « Je fus en esprit dans la journée dominicale ». Donc ça laisse penser que c'était la journée du Seigneur, et donc on peut supposer que c'était le dimanche, on voit pas quel jour ça pourrait être à part ça. Donc c'est les deux seuls repères qu'on a, à part les disciples bien sûr, réunis après la résurrection du Seigneur Jésus, deux dimanches de suite. Et ça, c'est un peu avant l'établissement de l'Église. Donc, pas d'exhortation positive, simplement un usage. Et donc, c'est bien dans l'esprit de la grâce, bien sûr, que de ne pas réglementer, mais ce jour, spontanément, les chrétiens l'ont mis à part, dans un esprit de grâce, de reconnaissance envers le Seigneur. Et alors, pour l'esprit de la chose, on peut aussi relire deux épisodes où le Seigneur Jésus a parlé du sabbat. Donc, on en a déjà un peu évoqué un, Matthieu 12. Matthieu 12, on lui reproche d'avoir fait un miracle le jour du sabbat, verset 11, « Mais il leur dit, quel sera l'homme d'entre vous qui aura une brebis, qui si elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat ne la prendra et la relèvera pas ?» Donc le Seigneur montre ici qu'il n'y a pas d'obligation absolue, mais qu'il y a aussi des priorités, enfin des notions d'urgence, donc ce qui évidemment légitime tout à fait l'activité des infirmières, des pompiers, des gendarmes, de tous ceux qui sont par obligation tenus de travailler le dimanche. Et puis également dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 27, aussi une notion importante. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, Marc 2, 27, et non pas l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Ça montre que ce jour de repos, en fait, est une institution pour Dieu, mais en même temps bénéfique pour l'être humain. Donc c'est un cadeau un peu que Dieu nous fait. Et on sait que dans le rythme biologique d'un être vivant, d'un humain en tout cas, il est bon d'avoir comme ça un moment de repos complet, avec une fréquence. Certains spécialistes ont même dit qu'une fréquence d'une semaine était une bonne fréquence. Donc c'est un cadeau que Dieu nous fait. Nous le faisons par reconnaissance aussi envers lui. Et ce n'est pas une obligation absolue.
Nous notons aussi dans ce début du chapitre 23, cette expression qui est un peu insistante, les jours solennels de l'Éternel. Ce sont mes jours solennels. Le jour du Seigneur, aussi pour le Nouveau Testament. Donc il appartient au Seigneur. Il ne nous donne pas ce jour pour le lui consacrer, c'est lui qui le consacre d'abord. Et il nous y invite. Et je pense qu'en rapport avec le dimanche, c'est ce qu'il faut particulièrement retenir. C'est le jour du Seigneur. Et quant au travail à ce sujet, pour le sabbat, on peut citer encore Jean 5, qui alors donne l'occasion au Seigneur de faire tout un développement concernant son travail et celui du Père. Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Et en quoi consiste ce travail? Eh bien, c'est nous donner la vie éternelle. Dans Jean 5.
Au fond, Dieu a toujours voulu partager ce repos avec l'homme. Mais nous savons qu'à cause du péché, Dieu doit se remettre au travail. On sait que Dieu va fabriquer des vêtements de peau pour Adam et Ève, pour cacher leur nudité. Et au fond, à cause du péché, Dieu a dit, comme il a été rappelé, mon père travaille, moi je travaille jusqu'à maintenant. Et dans toutes les parenthèses, si Dieu a appelé Abraham, on sait que bien vite, les choses ont mal tourné. Et Dieu a dû travailler pour son peuple. C'est le travail en grâce, travail d'amour, ce support. Il a supporté son peuple. Alors le Seigneur vient ici-bas, ça a été rappelé. Et on comprend ce verset que la parole nous dit, que j'ai dépensé ma force en vain, j'ai travaillé pour le mener en toute foi. Mon œuvre est parle vers l'Éternel. Le Seigneur semblerait qu'il ait dépensé sa force en vain. Mais le vrai repos, nous le trouvons ainsi dans l'œuvre de Christ. Le péché est toujours dans le monde, Dieu ne peut pas se reposer. Et on va aller même jusqu'au règne de Christ, où Dieu ne se repose pas. Il est dit que le méchant s'attranche chaque matin, il doit encore s'occuper du mal. Il faut attendre cet état éternel pour vraiment trouver le repos. Il se reposera dans son amour. Et là, il sera tout en tous. Il ne sera plus question du péché. Et là, c'est vraiment le repos qui sera découvert.